PME Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X PME Radio-TV. À mes côtés pour l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Melloul, directeur associé d'Inextenso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Ensemble, nous avons la chance de recevoir Marc Sabatier, CEO et cofondateur de Juliette Sterwen. Bonjour Marc.
Bonjour Pauline.
Alors Marc, vous commencez votre carrière au sein d'Ernst & Young Conseil, puis quelque temps au sein de la Caisse des dépôts. Mais très vite, vous vous lancez, puisqu'en 1996, vous créez Sterwen, aujourd'hui devenue Juliette Sterwen. Alors avant de rentrer dans les détails de votre entreprise actuelle, un mot peut-être sur cette création. Pourquoi vous avez créé ce cabinet de conseil à ce moment-là, finalement ?
Pour une raison assez simple, enfin, je l'ai créé avec un camarade avec qui j'avais travaillé chez Ernst & Young Conseil. En vérité, j'avais plus fait la fête avec lui que je n'avais travaillé. Donc on s'était dit, comme beaucoup de gens, qu'on ferait quelque chose un jour. J'ai passé 20 mois à la Caisse des dépôts. Alors 20 mois, ça ne veut pas dire que je ne m'y suis pas plu, ni que ça s'est mal passé. C'était une expérience extraordinaire, très difficile mais extraordinaire. Et on a décidé simplement à ce moment-là de monter une entreprise ensemble, ce qu'on a fait, sans trop savoir où on allait en réalité. Donc, je ne vais pas vous raconter d'histoire.
Mais alors, du coup, ça a bien marché, vous avez bien fait, puisque aujourd'hui, Juliette Sterwen, c'est donc pour nos auditeurs, on précise, hein, c'est un cabinet de conseil en stratégie, innovation et transformation.
Exactement.
C'est environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires tout de même, 600 collaborateurs et environ 1500 clients, je crois, dans tous les secteurs d'activité. En
exactement,
plus.
Oui.
Ouais. Donc, plutôt des bons chiffres, vous êtes content.
Jusque-là, ça va.
Alors, vous êtes aussi la première entreprise en France au classement Happy at Work. Ça, c'est aussi c'est important pour vous, je crois.
Ça, c'est un beau cadeau que nous ont fait nos collaborateurs et nos collaboratrices l'année dernière. Effectivement, on a fait cette enquête-là qui fait partie des... Enfin, il y a quelques officines, en fait, qui diligentent des enquêtes de ce type-là et qui permettent un peu de se positionner, de savoir si finalement... non pas les collaborateurs sont heureux, mais sont plus heureux qu'ailleurs,
et
parce
oui.
que c'est un classement.
Hein,
et, donc,
oui.
Et effectivement, on est ressorti premier en France, et assez largement. C'est une grande satisfaction. Et je dis assez souvent d'ailleurs que qu'on est une entreprise qui réfléchit plutôt au long terme qu'à l'immédiat, que j'échangerais toujours 20% de croissance contre un classement de ce type.
Un tel classement, on comprend. Guillaume, pour vous interroger également aujourd'hui.
En tant qu'entreprise à mission, expliquez-nous comment Juliette Sterwen intègre le concept de création de valeur durable dans ses activités.
Alors, peut-être un mot d'ailleurs sur l'entreprise à mission, parce qu'on a une histoire un peu compliquée avec ce statut. En réalité, Juliette Sterwen d'abord, puis Juliette Sterwen ensuite, est une entreprise un peu particulière, et encore plus particulière dans le monde du conseil, puisque... notre devise a toujours été de prendre du plaisir à bien faire les choses pour le bien. On est une entreprise qui n'a pas d'objectif financier depuis qu'on existe. C'est 27 ans, vous n'avez pas fait le calcul, je le fais pour vous. Ça fait un peu peur, mais c'est comme ça. Si bien que on est tous très préoccupés, et c'est... on est tous de la même manière... intéressé à ce que ce qu'on fait est, je vais utiliser un mot qui est maintenant très galvaudé, et de l'impact. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, qu'on fasse les choses bien. Et faire les choses bien chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà un énorme respect des autres. Et les autres, c'est mon collègue, mon collaborateur, mon collègue, mon voisin. Les clients ne sont pas des entreprises, c'est des gens qui travaillent dans des entreprises. Donc on a du respect pour eux aussi, on fait extrêmement attention depuis qu'on existe, et encore une fois c'est pas une révélation depuis le Covid, à notre environnement et à l'environnement, pour autant qu'un cabinet de conseil puisse avoir un impact sur l'environnement, mais on sait à quel point il est mal en point, donc on essaye d'avoir le maximum d'impact avec nos petits bras musclés sur le sujet. Et voilà. Et quand le concept d'entreprise à mission est arrivé, en réalité au début on était contre. On était contre parce que bien souvent... Et c'est très bien comme ça. Beaucoup d'entreprises sont devenues entreprises à mission donc depuis 2 ans, 3 ans, puisque la loi PACTE est sortie environ il y a 3 ans. Et on connut pour le coup une forme de révélation. Ça a servi à se transformer. Nous sommes devenus entreprise mission et donc désormais nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et on ne voulait pas apparaître, en fait, c'est un petit snobisme peut-être, hein, comme une entreprise justement qui se transformait, parce qu'on ne s'est absolument pas transformé pour être entreprise à mission. Mais simplement, on a vu aussi beaucoup d'acteurs progressivement dans notre environnement, dans notre industrie, en fait, qui sont devenus entreprises à mission et dont on n'avait pas forcément toujours perçu le niveau de responsabilité qu'on a toujours eu, nous. Responsabilité au sens large, hein, du terme, hein, faut pas utiliser le mot RSE. Quand on a vu que ça se multipliait, on s'est dit il faut qu'on régularise notre situation. Donc on s'est promis deux choses. Un, de communiquer en disant qu'on régularisait notre situation et non pas qu'on sortait comme le diable d'une boîte avec tout d'un coup des vertus incroyables. On n'a absolument rien changé à notre mode de fonctionnement. On a juste gagné un comité de mission, ce qui est très bien. Et on a dit aussi que notre rapport de mission, qui est souvent utilisé comme un outil marketing par les entreprises à mission, ne le serait pas. Ce serait simplement un outil de suivi et de pilotage. Et on n'en ferait pas un outil un peu bling-bling comme notre comité de mission. Donc on a des gens tout à fait normaux. Et je les salue d'ailleurs dans notre comité de mission. Très important pour nous. Mmh. Donc on n'a rien changé en réalité, Guillaume, sur le sujet. On est toujours les mêmes.
Comment Julie Esterwen attire et retient les talents dans un marché où la compétition pour les professionnels qualifiés est intense? Alors j'ai un début de réponse avec la première question.
Eh bien oui, vous avez un début de réponse, puisqu'effectivement Pauline a mentionné qu'on a eu ce prix-là. Alors, on n'a pas fait cette enquête pour avoir ce classement-là et pour nous permettre de mieux recruter et d'attirer les talents. J'ai envie de dire que il y a deux choses qui sont importantes pour qu'on attire les talents. Alors nous, on est un people business, comme on dit, c'est-à-dire que notre valeur n'est pas ailleurs que dans chacune de nos collaboratrices, chacun de nos collaborateurs. Donc évidemment, le recrutement, c'est important pour tout le monde. C'est absolument crucial pour nous. Voilà. Quand un collaborateur nous quitte, c'est une partie de notre actif qui disparaît. Bon. Il y a deux raisons pour lesquelles donc, on a sans doute plutôt des facilités, ce n'est pas le bon mot, parce que le recrutement reste quelque chose de très compliqué, mais peut-être plus de facilités que la moyenne pour recruter. La première chose, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire ce positionnement pour le bien qu'on a depuis toujours. Et finalement, aujourd'hui, avec la taille qu'on a, et c'est finalement à ça que sert la taille, je dis qu'on n'a pas d'objectif financier, donc on pourrait très bien ne pas croître. Ce que nous apporte la taille, c'est un peu de crédibilité vis-à-vis de ce marché des candidats, des talents, qui savent maintenant que ce qu'on raconte, c'est vrai. Voilà. Et donc, ça rend attractif Julie Esterwen. Et la seconde raison pour laquelle on est attractif, et on retient mieux que la moyenne d'ailleurs, même si on a un métier à turnover, donc on a du turnover, il nous faut du turnover, moi je suis un partisan du turnover. La seconde raison donc, c'est qu'on a un modèle organisationnel, social, RH très particulier, qui a d'ailleurs été primé, qui a eu un prix, on a eu un prix d'innovation sociale. Alors ça, c'est assez rare dans les cabinets de conseil, hein, pour être franc. Donc, c'est plutôt une grande fierté, ça. Et notre modèle, si je vous l'ai fait avec quelques marqueurs symboliques, donc on est 600 aujourd'hui, toujours pas d'objectif financier, on n'a pas de comité de direction, on n'a pas de budget, on n'a pas de comité en dehors de notre comité de mission. Et notre organisation est entièrement régie par une ambition que je vous résume pour faire court par être utile. On a 5 rôles qui priment sur tous les titres qui n'existent pas d'ailleurs. Je dis toujours que je suis président une fois par an lors de l'Assemblée Générale. Oui. Le résultat, je fais mon métier de consultant. Donc 5 rôles et 34 règles du jeu qu'on a écrites et qui ont pour simplement décrire la manière avec laquelle on fonctionnait déjà il y a très 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 longtemps. On était sans doute une quarantaine à l'époque, aujourd'hui on est 600, pas une virgule n'a changé, on ne s'est jamais réorganisé. Et ce modèle est évidemment, on le comprend bien, non hiérarchique, extrêmement responsabilisant, mais vraiment jusqu'au bout. Et ça c'est très attractif, parce qu'en fait quand quelqu'un arrive chez nous, il est totalement libre, dans la mesure où il sert l'ambition, et c'est pour ça que c'est un élément important de la description de notre organisation, dans la mesure où il sert l'ambition, où il respecte les règles du jeu, et qui connaît les attentes qui se cachent derrière chacun de ses rôles, chacun est entièrement responsable, on se fait tous totalement confiance, on a un fonctionnement d'une simplicité biblique. Et quand on nous quitte, en général, ce n'est pas à cause de notre modèle ou de notre organisation. C'est pour d'autres choses, souvent de bonnes raisons, bien sûr.
Quels sont les principaux défis dans l'industrie du conseil en stratégie et comment Julie Esterwen les aborde-t-il?
Alors les défis, ils sont permanents parce que, et passionnants en même temps, les défis, c'est simplement enfin, j'ai envie d'insister sur une chose, parce qu'il y en aurait beaucoup que je pourrais décrire, mais c'est le fait que, à chaque époque, et les époques, c'est presque à un rythme de 6 mois, les défis de transformation dans les entreprises sont différents. Par exemple, enfin, il y a un an, on parlait d'IA comme on parlait d'autre chose. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Alors, il n'y a pas que ça aujourd'hui. Hein. Mais ça veut dire que dans notre métier où on travaille sur la transformation des entreprises, transformations qui sont par nature multidimensionnelles, hein, c'est-à-dire qu'on va parler de marché, on va parler de clients, on va parler d'humains, on va parler de leadership, de management, de gouvernance, de data, d'IA, et d'environnement naturellement, d'impact social et sociétal, et j'en passe sans doute des dizaines, hein, des dimensions de la transformation. À chaque instant, et pour chaque entreprise, il y a une combinaison en fait, de ces facteurs qui est différent. Donc le défi, c'est d'être toujours, d'avoir toujours les bonnes expertises en face des dimensions qui comptent à un instant T pour une entreprise. Et ça nous oblige tous, cabinet de conseil en stratégie en transformation, nous en particulier, à être en permanence en train de développer des expertises nouvelles. L'idée, c'est quand même d'avoir, d'être au moins ex aequo avec nos clients, d'avoir idéalement un petit coup d'avance, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on leur apporte. Et donc, ça nécessite de faire de la recherche, des études, de la prospective, de développer sans cesse les collaborateurs sur de nouvelles expertises, de manière à ce qu'on soit en face, qu'on soit au rendez-vous de leurs préoccupations. Et leurs préoccupations ne sont jamais les mêmes. Voilà. Ça, c'est un défi qui est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que je suis toujours là, moi, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. On fait un métier différent chaque jour et pour chaque client, bien sûr.
Johan, vous avez des questions aussi pour notre invité?
On a vu que votre société a connu une croissance forte, on l'a évoqué. Comment on finance ce développement tout en restant indépendant et en l'absence d'objectifs financiers?
Alors, juste sur les objectifs financiers, ça ne veut pas dire que je ne connais pas notre chiffre d'affaires, ni notre EBITDA, ni quoi que ce soit, ni le montant de notre trésorerie. On a effectivement connu une croissance très importante et essentiellement une croissance interne. Parce qu'en fait, ce que j'ai expliqué sur notre modèle, sur ce que j'ai expliqué sur notre attractivité, sur notre positionnement sur le marché, nous permet d'avoir un moteur en matière de croissance interne qui est incroyable. En fait, on est un peu, les champions de la croissance interne dans notre industrie. Comment on finance ça? On est dans un métier, pour le coup, qui est assez simple de ce point de vue-là, puisqu'on est à nouveau un people business. Donc, nos actifs, encore une fois, sont nos collaborateurs et nos collaboratrices, qui sont eux-mêmes très actifs aussi. Et de ce fait-là, on n'a pas à financer, en dehors d'un BFR, on n'a pas à financer des machines, des matières premières, etc. Donc, la réalité, c'est que quand on a une boîte qui tourne bien, et qui croient dans des proportions raisonnables. Je ne suis pas du tout à l'aise avec des croissances infernales dans notre métier. À chaque fois qu'on a eu des énormes croissances, on en a eu une plus faible l'année suivante. Moi, je suis très favorable aux croissances calmes, maîtrisées, où on développe, on construit, on développe, on construit, on stabilise, etc. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de financement. En réalité, aux grand dam des banquiers et parfois des fonds, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un fonds dans notre capital. Pour d'autres raisons.
Ok. À l'inverse de la croissance interne, est-ce que vous êtes dans une logique d'intégration du secteur, de croissance externe?
Alors, on l'a pas toujours été, mais on est depuis la sortie du Covid. Quand je dis la sortie du Covid, je vais vous dire quand c'est pour moi, c'est à peu près en 2021. On est dans une logique où on est ouvert à la croissance externe, mais la réalité, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc, on est en permanence à l'affût d'opportunités. Mais si vous suivez notre actualité, vous verrez qu'on n'en rencontre pas souvent des actualités. Mais on est ouvert à ça. Donc, ça peut tout à fait arriver. Et ce qu'on cherche, c'est, puisqu'on est très fort en croissance interne, la croissance interne se fait naturellement en grossissant sur ce qu'on sait déjà faire. On ne va pas s'inventer des nouvelles expertises. On n'est pas des usurpateurs non plus. Quand on cherche de la croissance externe, c'est de la croissance externe, pour revenir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est sur des sujets nouveaux dont on considère qu'ils sont ou qu'ils vont être dans les préoccupations ou des dimensions des transformations demain. Voilà. Donc il y en a un certain nombre, c'est à chaque fois un peu des paris. Voilà. Donc on est ouvert à ça, ça pourrait arriver, ça n'arrive pas très souvent.
Et enfin... Pour compléter, est-ce que vous avez des sujets ou des ambitions à l'international aujourd'hui?
Alors, Oui, on travaille beaucoup à l'international, mais on n'est pas un cabinet international. Alors, quand je dis ça, on est en France, très essentiellement, on est un cabinet français, on a une très belle filiale en Suisse, on travaille, on est en Belgique, en Italie et en Espagne, mais de façon bien moindre. On a toujours du mal à nous développer à l'international. Alors, heureusement pour nous, on a tellement de choses à faire en France et dans les pays que j'ai cités que ce n'est pas un impératif ni un fantasme. Voilà. Beaucoup de cabinets ont essayé de se développer à l'international. Alors, il y en a qui ont très bien réussi et il y en a beaucoup qui ont mordu la poussière. Donc, on préfère faire ce qu'on sait bien faire. Voilà. Et on a beaucoup de chance aussi, c'est qu'on travaille pour des toutes petites boîtes et des beaucoup plus grosses. Et quand je parle des grands groupes, type CAC 40, sont des entreprises qui aujourd'hui, quand on travaille sur un sujet, on travaille sur ce sujet au niveau mondial. Donc en réalité, il nous arrive de nous déplacer, mais beaucoup moins depuis le Covid, ce qui nous arrange plutôt. Et il nous arrive très 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 fréquemment de travailler sur des sujets qui sont à l'échelle mondiale, parce qu'encore une fois, chez ces clients-là, tout sujet est mondial aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, Marc Chabatier, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Guillaume, et merci, Johan. C'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain, bien sûr, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.